Vous écoutez RTL.
RTL Matin,
Yves Calvi.
Excellente journée à tous sur RTL. Elisabeth Martichoux, à 7h44, vous recevez Laurent Fabius.
Bonjour Laurent Fabius.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous en ce jour historique, tout de même. Dans quelques heures, Donald Trump jurera sur l'abîme et sera investi président des États-Unis. Vous avez dirigé la diplomatie française pendant 4 ans. Vous en faites d'ailleurs le récit dans un ouvrage 37 Quai d'Orsay, publié chez Plon. Vous avez croisé beaucoup de dirigeants dans le monde entier pendant que vous étiez au Quai d'Orsay. Qui rentre à la Maison-Blanche tout à l'heure? Un homme d'affaires inexpérimenté, ou plus grave, un homme dangereux pour la stabilité du monde?
Je crois que le sens de ce qu'on va vivre aujourd'hui, c'est qu'une présidente hautement risquée succède à une présidence généralement approuvée. Bon, la présidence généralement approuvée, c'est celle d'Obama, je ne sais pas si on aura le temps d'en parler, avec des ombres et des lumières, mais enfin, positive sur beaucoup de points. La présidence de M. Trump est hautement risquée, d'abord parce qu'on ne sait pas exactement ce qu'il va faire, mais quand on garde ses objectifs de politique intérieure et extérieure, c'est là-dessus que ma compétence s'est exercée, il y a des risques à chaque instant.
Oui, alors, sur le style qui nous frappe beaucoup quand même, on va y rester un petit moment, sa première déclaration, vous vous rappelez, quelques heures après sa victoire, avait laissé penser qu'il pourrait arrondir les angles. Mais depuis, il s'échine à ne rien changer de ses excès, de ses rodomontades. Il se comporte finalement toujours comme quand il était candidat. Ça vous surprend, déjà, ça ?
Non, il a pris une ligne et c'est ça qui lui a permis de l'emporter avec le système américain, qui est de surfer sur la colère, la volonté de changement, la différence par rapport à l'establishment traditionnel, et c'est ça qui continue. Et en plus, il utilise, ça commence à être de plus en plus compris, les technologies modernes. Je me rappelle, quelqu'un l'autre jour disait, et ça me paraît assez juste, Roosevelt a été élu avec la radio, Kennedy avec la télévision, et Trump avec Twitter.
Ouais.
Et évidemment, ça donne des capacité d'intervention extrêmement forte.
Mais c'est une stratégie, ça, par exemple,
oui,
le tweet pour déstabiliser. Il défie la Chine ou l'industrie automobile en 140 caractères.
D'abord, vis-à-vis de la population, ça permet d'éviter tous les corps intermédiaires, y compris ce que vous êtes, les médias. Et d'autre part, c'est un peu de la télé-réalité, c'est-à-dire frapper plutôt que discuter. Et puis, c'est une ère, je dis des choses qui maintenant commencent à être de plus en plus comprises, post-vérité, c'est-à-dire que la vérité et le mensonge valent la même chose.
Henry Kissinger, qui est un grand diplomate comme vous, que vous connaissez bien, aux États-Unis, et qui s'est rapproché de Trump, dit ceci. Trump est un phénomène que les pays étrangers, donc nous en particulier, n'ont pas encore vu, une expérience choquante, mais vu le vide partiel d'aujourd'hui et les nouvelles questions qu'il est capable de poser, cela pourrait donner quelque chose de remarquable. Fin de citation.
Moi, je connais bien Henry Kissinger. Et nous avions discuté avant l'élection de sa position. Il n'a pas voté pour M. Trump, alors que traditionnellement, il est républicain, parce que c'est un professionnel, Henry Kissinger. Il se méfiait beaucoup du style de M. Trump. Maintenant, il l'a vu, il le connaît, et donc son jugement est entier. Mais enfin, je ne vais pas me situer par rapport à Kissinger. Si vous prenez l'ensemble, sur le plan extérieur, des problèmes qui sont aujourd'hui posés, je dis que c'est une présidence risquée. Prenez l'accord que j'ai moi-même négocié sur le nucléaire iranien.
Exactement.
L'accord du 14 juillet 2015, qui n'est pas un accord parfait, mais qui permet d'évacuer le risque de la bombe atomique nucléaire iranienne, de la bombe atomique iranienne. Si cet accord était remis en cause par les Américains, la réaction des Iraniens serait vraisemblablement de reprendre leur course atomique.
Il a nommé à des postes clés de son administration des personnalités ouvertement anti-iraniennes, à commencer par le secrétaire d'État Rex Tillerson, qui veut justement une révision complète de cet accord que vous avez cornaqué. Qu'est-ce que ça aurait comme conséquence?
D'abord, c'est pas un accord uniquement entre les États-Unis et l'Iran. Nous sommes 6 d'un côté de la table, plus l'Iran. Et c'est un accord qui a été entériné par les Nations Unies. Mais ça voudrait dire qu'on recommencerait, du côté iranien, la course vers l'arme nucléaire. Imaginez, dans cette région du monde, qui est déjà éruptive, si en plus, les Iraniens acquéraient la bombe atomique. Donc vous voyez les dégâts. En matière climatique...
Donc là, il peut y avoir un retour en arrière. Les Iraniens peuvent finalement ranger l'accord au placard. Ben,
ce serait une grande faute que les Américains veuille casser cet accord.
Vous pensez qu'il y a une menace réelle qu'il le fasse ?
il peut y avoir une menace, parce que lui, c'est la position qu'il a prise, et là-dessus, le Congrès américain, qui est intervenant, est plutôt du côté de Trump que sur d'autres sujets. Par exemple, dans le flirt éventuel avec M. Poutine, il y a une différence entre la position de M. Trump et la position du Congrès américain. Tandis que sur l'Iran, c'est autre chose. Je prends la question du climat, que je connais bien pour avoir négocié et présidé l'accord de Paris. Les déclarations de M. Trump sont, on les connaît, très très choquantes, puisque pour lui, la question du réchauffement climatique n'existe pas. Il a nommé à la tête de l'Agence de protection de l'environnement quelqu'un qui est climato-sceptique. Je connais bien le nouveau ministre des Affaires étrangères, qui était avant président d'ExxonMobil, qui lui n'est pas non plus un écologiste forcené. Et donc, si on revient en arrière sur cet accord climatique, pas juridiquement mais pratiquement, comme les Américains sont le deuxième pollueur au monde, vous voyez les conséquences que ça peut avoir pour le monde entier et pour, y compris, les Américains eux-mêmes. Donc, je dis, il n'y a pas de certitude, parce que comme vous le soulignez, il y a des va-et-vient de M. Trump, mais il y a un risque, et il y a un risque aussi pour l'Europe, vous avez vu les déclarations l'autre jour, oui, bravo pour le Brexit.
Et d'ailleurs, est-ce qu'il a déclaré la guerre à l'Europe, comme le disait Manuel Valls après ses déclarations de quelques jours? Il a fait une déclaration de guerre à l'Europe, ça vous semble approprié comme formule?
Je dirais, parce que vous diriez autrement, avec un langage diplomatique, que sa déclaration est hostile à l'Europe.
De l'hostilité à la guerre, il y a une différence entre
en
l'ancien
que
diplomate
l'OTAN était obsolète et Manuel Valls. Et que le Brexit, c'était merveilleux, en disant, en utilisant des mots qui n'est pas très doux vis-à-vis de Madame Merkel, et en oubliant la France. Donc,
justement,
c'est pas
la
une déclaration d'amour.
S'il faut se mettre à sa place dans la psychologie de Donald Trump, pour lui, la France, c'est quoi? Ça compte pour quoi, à votre avis?
Je n'en sais rien. Je ne crois pas qu'il connaisse très bien la France. Mais les réalités, elles vont s'imposer, tout au moins je l'espère. Et nous, nous ne devons pas être simplement spectateurs. Nous avons des choses à dire. Nous sommes un membre permanent du Conseil de sécurité. Il y en a que 5 dans le monde, dont les États-Unis. Donc nous avons à faire valoir nos positions françaises, européennes. Nous sommes présents à travers le monde. Et il faut que la France, plus que jamais, montre son indépendance.
Mais il y a une question de forme, mais ça compte aussi en diplomatie. Beaucoup. Vous le savez mieux que moi. Est-ce qu'il faut que François Hollande aille très vite aux États-Unis rencontrer Donald Trump? Il faut le boycotter? Il faut l'inviter rapidement à Paris?
Certainement, il y aura certainement des contacts entre les grandes puissances, les représentants des grandes puissances, les dirigeants des grandes puissances. Il y a des contacts. J'imagine que dans les mois qui viennent, ou dans les semaines qui viennent, il y aura des contacts au plus haut niveau. Même si on n'est pas d'accord, il faut parler et il faut convaincre. Je suis frappé, je le décris dans mon livre, du poids des relations humaines. Évidemment, il y a des rapports d'État à État. Les États sont d'une certaine manière des monstres froids. Mais arriver à convaincre son interlocuteur, à comprendre pourquoi il prend cette position, à expliquer que son intérêt est peut-être d'avoir une autre position, c'est fondamental. Donc, les contacts humains et les contacts, bien sûr, entre les dirigeants français et les dirigeants américains.
Vous avez eu l'occasion de le rencontrer?
Trump, non.
Non, jamais. Donc, c'est une expérience à vivre pour vous.
Oui, je ne sais pas si le mot d'expérience... Mais bon, il est là, il est en place
pour
4 ans.
Marine Le Pen est la seule, disons, leader politique française à avoir salué son élection. Ça dit quoi? Ça dit quoi de Trump?
C'est aussi la seule, je crois, à avoir été prendre un café ou un thé dans la Tower Trump. Trump Tower. Mais par rapport, Madame Le Pen, je ne veux pas me situer par rapport à tel ou tel candidat à l'élection présidentielle. Simplement, me rappelant mes années au Quai d'Orsay, je pense que la politique de la France, ça ne peut pas être simplement bravo Poutine, bravo l'Iran.
Bravo Poutine, bravo l'Iran, c'est comme ça que vous résumez les propositions en matière de politique internationale de Marine Le Pen.
Non, mais je ne me situe pas par rapport à Madame Le Pen. Mais la position de la France classique, et qui doit être poursuivie, c'est une position d'indépendance. Nous sommes un grand pays, nous n'avons à dépendre ni de Washington, ni de Moscou, mais nous avons à avoir de bonnes relations avec les autres. Et s'agissant de la France en Europe, il est évident que ce à quoi il faut parvenir, c'est une relance du dialogue franco-allemand pour que l'Europe reprenne de la force par rapport au Brexit et aux autres puissances du monde.
Laurent Fabius, François Hollande va quitter l'Élysée en mai dernier. Il avait promis en 2012...
En mai prochain.
Proposition, j'ai cherché dans ma tête, 47 je crois, que les anciens présidents ne siégeraient plus au Conseil constitutionnel. Il n'a pas fait cette réforme. Vous le regrettez ?
Que cette réforme n'ait pas pu être faite, oui, je me suis exprimé publiquement là-dessus, donc je peux le reprendre à votre micro. Je pense qu'il y a actuellement un une grande personnalité qui siège à nos côtés, qui est Valéry Giscard d'Estaing. Et la Constitution, actuellement, prévoit que les anciens présidents sont membres du Conseil. M. Chirac, compte tenu de sa maladie, n'y siège plus. Et
Nicolas
M. Sarkozy,
il
non
va,
plus.
Il est allé quatre fois, il n'y ira pas, il vous l'a confirmé.
Non, je ne crois pas, pour différentes raisons. Bon, alors, il y a M. Giscard d'Estaing. Mais cette rédaction de la Constitution a été faite à un moment où le Conseil constitutionnel n'avait pas du tout le rôle qu'il a maintenant. Maintenant, nous sommes une juridiction. Et le fait que les anciens présidents de la République soient dans cette juridiction, c'est un peu bizarre. Imaginez la Cour suprême américaine, puisqu'on parlait des États-Unis, s'y siégeait M. Jimmy Carter, M. Bush père, M. Bush fils, M. Bill Clinton et M. Barack Obama, on ne dirait pas vraiment que c'est une juridiction. Donc en France, il faut qu'on comprenne, toute révérence due, que nous sommes une juridiction et qu'il faut rester une juridiction. Mais vous avez raison, François Hollande, dans l'engagement 47. Avait dit qu'il ne pensait pas qu'il faille
et donc, en toute logique,
que les présidents y siègent.
Il n'y siègera pas. Vous êtes président du Conseil constitutionnel, c'est vous qui validez les candidatures à, la, à cette présidentielle. Un petit mot de la primaire, d'abord vous allez voter dimanche ?
Non, parce que comme le Conseil constitutionnel contrôle la régularité des élections présidentielles, comme en plus j'aurai l'occasion de proclamer élu le ou la future présidente, je pense qu'il serait contradictoire que j'affiche mes convictions. Et quand on vote dans une primaire, que ce soit de droite ou de gauche, on donne quand même un sentiment. Donc je n'irai pas.
Et est-ce qu'il y a une idée de cette campagne des primaires, de votre camp qui...
Là, c'est un peu contradictoire avec ce que je viens de dire.
Oui, mais il n'est pas contradictoire avec votre parcours politique.
Oui,
est-ce qu'il y a une idée qui vous a retenu, qui a retenu votre attention?
Il y a beaucoup d'idées qui ont retenu mon attention dans les primaires de droite et de gauche. Revenons à la politique étrangère, notamment cette idée fondamentale dans la tradition gaulliste, mitterrandienne, l'indépendance.
Merci beaucoup Laurent Fabius d'avoir été notre invité ce matin dans le studio d'RTL.
La présidence de M. Trump est hautement risquée, nous a dit Laurent Fabius, sur le nucléaire iranien, sur le climat, sans oublier l'Europe. Il faut lui parler néanmoins et le convaincre pour que la France reste indépendante, nous a dit l'ancien ministre des Affaires étrangères, président du Conseil constitutionnel. Merci à tous les deux. L'entretien est à retrouver sur le site rtl.fr.